en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La séance est ouverte. Mesdames, messieurs les ambassadeurs, Madame le ministre, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Madame la directrice, Messieurs les présidents et directeurs des musées, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de Philippe de Montebello, élu le 11 avril 2012, membre associé étranger de notre Académie, au fauteuil précédemment occupé par Seichiro Ujie. Nous sommes heureux de célébrer à cette occasion l'amitié franco-américaine et nous saluons la présence sous cette coupole des nombreuses personnalités qui ont traversé l'Atlantique pour nous rejoindre. La parole est à Monsieur Michel David Veil.
Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, mon cher Philippe, au nom de l'Académie des Beaux-Arts, qui rassemble tant d'esprits distingués par leur excellence dans tous les domaines artistiques, je vous accueille aujourd'hui avec joie et émotion. Vous êtes invités à rejoindre cette assemblée où vous avez toute votre place. À la tête d'un des plus prestigieux musées du monde, le Metropolitan Museum of Art, est le plus universel, puisqu'il traite de toutes les civilisations. Votre direction a été marquée pendant plus de 30 ans par votre liberté d'esprit et d'action, que chacun s'accorde à dire tout entière dédiée aux seuls intérêts supérieurs de l'art. Un public toujours plus nombreux au cours de ces 30 dernières années, près de 5 millions de personnes cette année, est venu découvrir les trésors d'une institution dont vous avez contribué à élargir considérablement les richesses, sans jamais céder à la facilité, à la volonté de la nouveauté pour la nouveauté, ou aux compromissions d'aucune sorte. Vous entrez dans cette académie à titre étranger, puisque tout en étant français, et je dirai plus tard à quel point vous l'êtes, vous êtes aussi américain depuis 1955 et réussissez à faire vivre le meilleur de ces deux versants de votre personnalité. Cette élection à l'Académie des Beaux-Arts, vous la vivez comme un retour dans votre pays natal, dont vous avez toujours su garder en vous la civilisation et les arts. Après une vie passée au service de votre pays d'accueil, qui est aussi devenu votre pays, ayant eu la chance de vivre moi-même entre Paris et New York, je sais combien les points de vue souvent différents entre ces deux pôles apportent d'ouverture à la réflexion comme à la sensibilité. Vous avez, comme moi, un grand amour de la France. Vous la voyez de loin comme il m'arrive à moi aussi de le faire. Il est parfois salutaire de voir de loin. Et la France, pour vous comme pour moi et pour nous tous dans cette assemblée, a toujours été un lieu privilégié de la beauté, synonyme de l'art, même si beaucoup de nos compatriotes sont pour aujourd'hui l'oublier. Il y a un regard français, un regard de raison, une retenue, une élégance, une probité, une réserve, un effort proprement français. Vous avez su conserver et faire vivre en vous le meilleur de la France, cette distinction, cette élégance, cet esprit critique, ce goût et cette culture faite d'équilibre et d'harmonie que vous avez fait rayonner partout où vous avez été. Mais vous avez aussi, très jeune, acquis le meilleur des États-Unis, un esprit d'indépendance, une absence de préjugés, une énergie, une générosité envers les autres cultures, la sensation d'une certaine lumière qui caractérise l'art américain, et aussi un goût d'entreprendre et de réussir, un regard renouvelé sur le monde et sur l'avenir qui entre encore aujourd'hui dans la composition de ce qui est et qui reste le rêve américain. Edith, votre femme, qui est américaine, aime l'Europe et parle parfaitement le français. Elle est aussi ancrée dans les grandes traditions des États-Unis et c'est en grande partie grâce à elle que vous avez pu vivre l'Amérique. Elle est l'arrière-petite-fille et la nièce de deux juges à la Cour suprême des États-Unis, tous deux du même nom, John Marshall Harlan, le premier juge entre 1855 et 1871, est connu pour avoir été le seul juge sur les neuf à voter pour l'égalité raciale. Avant de parler de vous et de votre carrière, je voudrais revenir sur le passé dont vous êtes l'héritier et qui appartient aussi à l'histoire de France. Vous êtes par votre ascendance paternelle le descendant de Jean Lannes, maréchal d'Empire et duc de Montebello, dont vous portez le nom. Lannes, le plus brave de tous les hommes, était assurément un des hommes du monde sur lequel je pouvais le plus compter. L'esprit de Lannes avait grandi au niveau de son courage. Il était devenu un géant, disait Napoléon, de votre ancêtre. Il est de ceux qui ne l'avaient jamais trahi, un brave entre les braves, un stratège audacieux, qui avant de mourir au combat à Essling en 1809 à l'âge de 40 ans, avait gagné de multiples batailles à la tête des armées de l'empereur. Ce soldat sorti du rang devint l'une des gloires militaires les plus éclatantes de ce pays par ses qualités personnelles et son sens du commandement. Il repose aujourd'hui au Panthéon. Faut-il une vaillance comparable dans la société d'aujourd'hui pour entraîner à sa suite les esprits les moins bien disposés et faire triompher les idées auxquelles on croit? En tout cas, mieux vaut ne pas être démuni de ces qualités pour inciter à l'action et avancer dans la bonne direction. En tant que membre du conseil d'acquisition du Metropolitan que vous présidiez, j'ai eu souvent l'occasion de constater que vous l'avez dirigé avec brio et sans coup férir, ce qui est une autre forme de courage, faite d'énergie et de détermination au service du beau et du bien. Du côté de votre ascendance maternelle, vous descendez d'un autre monument de l'histoire de France, le marquis de Sade. Après les armes, les lettres. Encore que le jeune marquis de Sade fut aussi capitaine de cavalerie et noté par ses supérieurs hiérarchiques comme fort dérangé, mais fort brave. Mais c'est d'une autre sorte de courage qu'il est question ici, celui de tenir bon sur ses idées fussent-elles dérangeantes. L'athéisme à cette époque en était une des pires. Il en a payé le prix puisqu'il est resté enfermé pendant 27 ans sur les 74 années qu'il a vécues. Et il mourut, ayant échappé de peu à la guillotine, à l'asile d'aliénés de Charenton-Saint-Maurice, après avoir écrit l'une des œuvres les plus sulfureuses et les plus mal lues de l'histoire. Aujourd'hui, s'il n'est pas au Panthéon, il n'y sera jamais, ayant de toute façon veillé à ce que sa tombe restât anonyme, son œuvre figure bien au Panthéon des Lettres, autrement dit dans la Pléiade, depuis 1990. Et c'est votre tante, Marie-Laure de Noailles, qui la première a permis sa redécouverte dans les années 1930, en rachetant en 1929 avec Charles son mari le manuscrit des 120 jours de Sodome qu'on croyait à jamais perdu. Cette tante qui vous a beaucoup marqué, comme elle a aussi beaucoup marqué son époque par son goût éclectique et ses audaces d'avant-garde, était la fille aînée de votre grand-mère, Marie-Thérèse de Chevigné, qu'elle avait eue de son premier mariage avec M. Bischoffheim, mort en 1904, alors qu'elle avait à peine 2 ans. Cette vicomtesse du bizarre, comme la qualifie Laurence Bénaïm dans sa biographie de Marie-Laure de Noailles, étant, selon ses propres termes, une nature singulière, née de l'alliance de la banque par son père, issu d'une famille de banquiers juifs allemands, et du blason par sa mère, donc votre grand-mère. Cette dernière était d'ailleurs la petite-fille de la fameuse Laure de Sade, comtesse de Chevigné. Elle servit de modèle à Marcel Proust pour le personnage de la duchesse de Guermantes. Marie-Laure de Noailles fit de son hôtel particulier du 11 Place des États-Unis à Paris le théâtre convoité de réceptions inoubliables pendant 40 ans, où la haute société parisienne et internationale, côtoyant artistes et intellectuels comme Jean Hugo, les frères Giacometti, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Man Ray, Louise Binuel, Jacques Lacan, entre autres personnalités. Au mur de cet hôtel particulier, imaginé dans un décor art déco créé par Jean-Michel Franck, des tableaux de Van Dyck, Rubens, Watteau, Goya, Delacroix, voisinaient avec ceux de Matisse, Picasso, Braque, Klee, Baldus, Mondrian, Miro, Max Ernst et Jean Cocteau. Tous les artistes de cette époque doivent quelque chose à Marie-Laure. Elle leur a permis de s'exprimer mieux et quelquefois de s'exprimer tout court, disait en 1963 le dramaturge Marcel Achard, de celle qui, en plus d'être elle-même écrivain et peintre, fut l'un des plus grands mécènes du XXe siècle, n'hésitant pas à financer les œuvres les plus provocatrices, comme parmi beaucoup d'autres, L'âge d'or, le chef-d'œuvre surréaliste du cinéaste Louise Buñuel, qui fit scandale à sa sortie. En 1910, votre grand-mère, qui était veuve, se remarie avec le dramaturge Francis Viner de Croisset. Elle aura deux enfants, dont Germaine, votre mère. Votre père, Roger de Montebello, inventeur, décide de tenter l'aventure des États-Unis avec sa famille en 1950. Et c'est votre mère qui réussit l'adaptation à ce nouveau pays qui deviendra le pays de votre frère Georges et de vous-même, un frère que j'ai connu et qui a beaucoup compté pour vous. Lorsque vous arrivez à New York, vous n'avez pas 14 ans et vous fréquentez comme moi le lycée français de New York, qui n'est d'ailleurs pas si loin du Metropolitan. Je me souviens vous avoir aperçu dans la cour de récréation, mais nous avions 4 ans d'écart. À cet âge-là, un monde sépare deux garçons de 13 et 17 ans. Naturalisé américain en 1955, vous passez votre bac et décidez de poursuivre vos études à Harvard, où vous étudiez l'histoire de l'art, puis à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de New York, où vous préparez un doctorat que vous interrompez pour rejoindre le Met en 1963, comme assistant conservateur du département des peintures européennes sur la recommandation de Ted Rousseau, lui-même conservateur des peintures. En 1969, vous êtes nommé directeur du musée des Beaux-Arts de Houston, poste que vous occupez pendant 4 ans avant de revenir au Metropolitan comme directeur adjoint un beau jour de 1974. « Le plus beau jour de ma vie », avez-vous même ajouté avec enthousiasme, tant votre amour pour le Met est inconditionnel. Directeur en 1977, vous y restez jusqu'au 31 décembre 2008, ce qui fait de vous le directeur le plus constant à la tête de cette institution. Encore ne suffit-il pas d'être constant. Il faut aussi être inventif et prêt à relever les défis, et c'est ce que vous avez fait. Sous votre direction, le Metropolitan a doublé de superficie. Les galeries européennes du XIXe siècle ont été refondies. Des galeries hautes ont été créées afin de mettre en valeur des toiles monumentales comme celle de Tiepolo. Vous avez axé votre action sur ce qu'il fallait améliorer dans des domaines qui manquaient au Met, comme les primitifs et l'art byzantin. Des chefs-d'œuvre comme la sublime Vierge à l'enfant de Duccio ont pu rejoindre le musée. Le département d'art moderne s'est considérablement enrichi grâce à vous, puisqu'il compte aujourd'hui plus de 10 000 œuvres, principalement d'artistes européens et américains. Vous avez supervisé des centaines d'expositions, comme celle sur le Titien, Van Gogh, Degas, Manet, l'art et la culture byzantine, la papauté et les arts, qui ont été unanimement salués et immensément populaires. Et puis, il y a eu en 2008 cette exposition d'une sélection des œuvres majeures que vous avez acquises pour le musée en 30 ans et qui, par la diversité des œuvres présentées et leur qualité, donnait mieux que tous les discours une idée de ce que le maître vous doit. Mais vous avez fait plus. Tout au long de ces années, vous avez su allier la raison et la passion. La raison parce que le Metropolitan est un musée universel, alors que votre goût personnel ne vous porte pas naturellement sur tout. Ce goût que vous avez pour l'art, je le partage. Comme moi, vous aimez la beauté et l'harmonie, la laideur et l'horreur qu'on peut trouver aussi dans l'art ancien. Ne vous attire pas plus que moi. Je me souviens avoir été témoin d'une scène que j'ai rapportée dans mon livre « L'esprit en fête » où une statue de Pajou, un peu tourmentée et pas du tout caractéristique du style français du sculpteur du XVIIIe siècle, par ailleurs très français, avait été achetée très cher lors d'une vente à Paris, justement parce qu'elle n'avait pas l'air française. Ce que je le regrettais, bien entendu, contrairement aux conservateurs qui s'en réjouissaient. Oserais-je dire que vous n'étiez pas loin de partager mon avis. Vous avez su défendre ce que vous aimez le plus, mais vous avez su aussi vous ouvrir à ce que vous avez appris à aimer. Ainsi, grâce à vous, le Metropolitan possède aujourd'hui de magnifiques collections de photographies, d'art africain et d'art moderne, qui appartiennent à des domaines où vous savez reconnaître la qualité, même si, comme moi, il ne vous touche d'abord qu'indirectement par le biais de la connaissance de l'art. S'il y a un domaine où la passion vous habite, c'est bien l'art de l'Europe, un art dans le fond où bien souvent le sujet est imposé et où c'est le talent mystérieux de l'artiste qui sublime l'œuvre. Aujourd'hui, la plupart des artistes mettent en avant l'invention du sujet. La vision se doit d'être transformatrice de la réalité pour faire advenir une vue nouvelle et originale. Or, l'art de l'Europe, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, allait à l'inverse de cette attitude. S'il s'agissait d'exprimer un sentiment religieux, les sujets, qu'ils soient ceux de la nativité ou de la passion, étaient immédiatement reconnaissables. S'il s'agissait d'un objet, un fauteuil par exemple, il servait à s'asseoir. Et pourtant, la transformation par le talent et l'évidence du génie artistique se trouve dans ces cas-là, je pense, à vos yeux comme aux miens, encore plus éclatant. J'ai toujours beaucoup aimé la joie qui vous anime devant une œuvre. Et je sais à quel point cette joie a été communicative auprès des conservateurs que vous avez enchantés par votre goût manifeste pour l'art. J'ai toujours pensé que les deux mots clés pour jouir d'une œuvre d'art étaient la jubilation et la grâce. Vous êtes pour moi le témoin et l'acteur privilégié qui a su rendre ces évidences sensibles au cœur de très nombreux visiteurs dans cette grande institution publique qu'est le Metropolitan aux États-Unis. Vous avez connu bien des réussites à la tête de cette institution et cependant, vous ne vous êtes jamais habitué au succès. Ayant un goût éclectique, vous avez su profiter des immenses qualités des collectionneurs américains. Comme directeur et président du comité d'acquisition au Met, vous avez su les convaincre par votre enthousiasme et votre compétence. Ainsi, l'impressionniste est-il remarquablement représenté, en particulier grâce à la collection de M. Annenberg. Les surréalistes le sont grâce à la collection de Jacques et Natacha Gelman et les cubistes grâce à celle de M. Lauder qui comprend des Picasso, des Braque, des Juan-Gris très significatifs de ce mouvement. Le département des arts décoratifs s'est magnifiquement étoffé grâce à la très belle collection de meubles français du XVIIe et XVIIIe siècle de Mme Jane Reitzman. En tant que membre du conseil d'acquisition du Met, j'ai eu tout le loisir d'observer votre manière de présider ce conseil. À votre demande, chaque administrateur du musée se rapprochait d'un département en particulier. J'avais choisi celui de l'art médiéval et j'ai gardé une tendresse particulière pour les Cloisteuses, cet ensemble de cloîtres médiévaux dont 4 sur 5 sont français, qui sont rattachés au maître et qui sont une œuvre en soi. À la tête du conseil d'acquisition, vous avez su, avec diplomatie et autorité, sans vexer personne, et ce, en ayant d'excellents rapports avec les administrateurs et les grands donateurs du musée, entraîner les énergies de tous pour le bien du Metropolitan. Professeur de l'histoire des musées, ainsi que du phénomène de la collection, critique d'art très écouté sur la chaîne publique Channel 13, vous êtes aussi la voix des audioguides du Met, et cette voix parfaitement reconnaissable et connue de tous les visiteurs. Elle m'enchante, et voici pourquoi. Indépendamment de vos connaissances de l'art que vous transmettez généreusement, vous avez remis en faveur l'accent français dont je ne suis pas dépourvu. Plus sérieusement, à une époque où il est bon de se vanter d'être un professionnel et un spécialiste, vous avez le courage de maintenir que vous êtes un amateur. Y a-t-il rien de plus beau ? L'art, vous l'aimez entièrement. D'un amour véritable, vous se mêle le désir et l'affection, comme on peut aimer une personne vivante. Car les âmes créées pour admirer les grandes œuvres ont la faculté ultime des amants. Ils éprouvent autant de plaisir aujourd'hui qu'hier, ils ne se lassent jamais et les chefs-d'œuvre sont heureusement toujours jeunes. Amateur, vous le savez, écrivait Honoré de Balzac. Être un amateur est une grâce qui se cultive, mais qui exprime aussi une disponibilité de l'être envers la beauté. C'est reconnaître la primauté de l'art, son importance vitale. C'est essayer d'orienter son regard vers la grandeur et le miracle à travers une vision du monde faite de tolérance et d'ouverture à tous les courants, dans le respect et l'amour de toutes les traditions. Être un amateur, c'est entrer dans l'intimité d'une œuvre d'art, la regarder comme si c'était au premier jour de sa création, la voir vivre et l'aimer. Cela contribue pour moi à l'expression la plus haute du bonheur. Toutes les affections se rejoignent. Au fond, je ne crois pas que l'on aime les êtres que l'on aime d'une façon très différente que l'on aime les œuvres d'art si on est un amateur. Et je ne vois pas de fin à un tel enchantement. Vous connaissez bien, je suis sûr, qu'il en est de même pour vous. Vous êtes un amateur. Vous entrez aujourd'hui à l'Institut dans la grande tradition des honoraires amateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Vous y entrez par la grâce de tout ce que vous avez accompli dans votre carrière de directeur éminent du Metropolitan pendant plus de 30 ans. Et vous y entrez aussi par la grâce de tout ce que vous êtes toujours aujourd'hui. Soyez ici le bienvenu dans cette Académie des Beaux-Arts qui se réjouit de vous accueillir, vous qui avez dédié, et avec quelle maestria, votre vie à l'art, et vous qui êtes pour notre plus grand plaisir à tous, un amateur.
Merci.
Mon cher confrère, je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Philippe de Montebello.
Mesdames, messieurs les ambassadeurs, Madame le ministre, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Madame la directrice, Messieurs les présidents directeurs de musées, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis, me voici devant vous, me voici parmi vous aujourd'hui, et je suis profondément ému du grand honneur que vous me faites en m'accueillant au sein de votre compagnie. Comment aurais-je jamais pu imaginer avoir un jour ma place sous cette auguste coupole. Michel David Bey, vos paroles si aimables et bien trop élogieuses me touchent beaucoup, car en me qualifiant d'amateur, vous m'absolvez du regard muséal que j'ai dû inévitablement acquérir au long de ma carrière, et je vous en remercie. En héritant de ce fauteuil au titre d'associé étranger, je succède à un membre très estimé de cette Assemblée, le regretté Seychirou Jiyeh. Je n'ai malheureusement jamais eu le privilège de rencontrer ce grand mécène, mais au fil de mes recherches sur sa carrière, j'ai découvert avec une fascination grandissante sa contribution remarquable au monde de l'art. Et il m'est très vite apparu que nous étions faits pour nous entendre. Nous avons même été collègues pour un temps, à l'époque où M. Jiyeh a assumé la direction du Musée d'art contemporain de Tokyo. Nous avons aussi été tous deux décorés non seulement de la Légion d'honneur, mais aussi cette fois par le gouvernement japonais, de cette autre décoration prestigieuse, l'Ordre du Soleil Levant, que j'arbore aujourd'hui avec fierté. Il m'est impossible d'évoquer en quelques mots la richesse et la variété des réussites de M. Jiyeh. Grand magnat de la presse et de la télévision japonaise, il s'est toujours appliqué à mettre son succès professionnel au service de sa passion pour l'art et, plus spécifiquement, de la créativité artistique. Les dessins animés d'une grande originalité et d'un graphisme extrêmement séduisant dont il a financé la production restent pour tous ceux qui l'ont suivi une référence cinématographique essentielle. Le triomphe commercial des films d'animation tels que Princesse Mononoke et surtout Le Voyage de Chihiro ne l'empêchait pas de se considérer davantage encore investi de la mission de perpétuer sous une forme moderne le rapport ancestral à l'image de la culture japonaise. Cette modernité, fondée sur une longue et très ancienne tradition artistique, valut à son studio, ainsi qu'au grand réalisateur Hayao Miyazaki, de multiples et prestigieuses récompenses internationales, dont l'Ours d'or de Berlin et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003 pour Le Voyage de Chihiro. Maître incontesté des médias au Japon, c'est par le biais du journal quotidien Yomiuri Shimbun et plus tard de la chaîne de Nippon Television Network Corporation, dont il devint président, que M. Jiyeh a pu nourrir de concert sa passion pour l'art et son amour pour la France. De cette dernière, il aimait à dire, et je cite, « J'aime la France, je ne sais pas pourquoi, un peu comme ma femme », évoquant ainsi, en quelque sorte, Blaise Pascal, le cœur a ses raisons. Enfin, vous connaissez la suite. L'art et la France sont toujours restés étroitement liés dans son activité de collectionneur, dont le but était pour lui, avant tout, de mettre l'œuvre d'art à la portée d'un public aussi vaste que possible. Ce qui ne l'empêchait nullement, d'ailleurs, d'en profiter lui-même, à titre privé. C'est par exemple un tableau magistral de sa collection, le portrait en pied d'Ambroise Vollard en Torero, peint par Renoir, qui l'accueillait jour après jour à l'entrée de son bureau. Ce portrait, M. Jiyeh eut cependant la générosité de s'en séparer pendant de longs mois pour une exposition à Paris, puis au Metropolitan Museum, où j'ai pu moi-même l'admirer il y a quelques années. Pour mon prédécesseur, le mécénat allait bien au-delà du simple devoir. Il a lui-même défini ce qu'il entendait par mécénat lors de son discours de réception, ici même, à l'Académie des Beaux-Arts, où il précisait, et je cite, que « permettre au plus grand nombre de jouir d'une expérience unique, celle de la rencontre d'une œuvre d'art, est, à mon avis, le fondement des activités de mécénat. C'est l'objectif premier, disait-il, le point central de mes activités. Un peu plus loin, il soulignait que le mécénat, et je cite encore, où les efforts de différents pays sont amenés à se conjuguer, devait ignorer les frontières et être largement ouvert sur le monde. C'est dans cette optique qu'il finança non seulement la présentation au Japon de nombreuses expositions d'artistes français, comme Jean-François Millet et Vincent Van Gogh, que nous n'hésitons pas en France à nous arroger, mais également la présentation des collections de grands musées français, tels le Louvre et l'Orangerie. Et c'est encore grâce à sa générosité qu'un nombre important d'œuvres du musée Marmottan-Monet, ce fleuron de l'Académie des Beaux-Arts, ont pu voyager dans plusieurs villes nippones. En sens inverse, il entreprit de faire connaître l'art japonais en France, en orchestrant notamment l'exposition à Paris au Grand Palais de l'admirable collection d'art du monastère de Kofukuji de Nara, haut lieu de la pensée et de l'art bouddhique, trésor national du Japon. C'était sa manière à lui de créer ce qu'il appelait des ponts, non seulement entre le Japon et la France, mais également entre le Japon et cette compagnie. En vérité, sa fierté d'appartenir à cette assemblée était si grande que dans l'entrée de son appartement au 51e étage de la tour Nippon à Tokyo, son habit vert trônait dans une vitrine non loin justement du tableau de Renoir. Cet amour pour la France et pour cette académie le mena encore jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où il entreprit de rénover cet autre fleuron de l'académie, la Villa Effrussi de Rothschild, et si sa mosaïque de jardin, auquel il prit soin de faire ajouter aussi, lien précieux avec son pays, un jardin japonais où l'on se retrouve dans un monde zen aux motifs apaisants tracés dans le sable blanc. Le musée du Louvre bénéficia également de ses largesses, puisque c'est lui qui finança le réaménagement de la salle des États, offrant ainsi à la Joconde un écrin digne de son éclat. Et peut-être, pour ne pas faire de jalouse, il en fit de même pour la galerie de la Vénus de Milo. En évoquant le soutien qu'il apporta à la restauration de ces salles, je tiens à souligner que derrière ces apports matériels, il y a bien davantage que les sommes financières qui permirent la réalisation des travaux. On y trouve en effet la marque d'une conception humaniste de l'art et des civilisations sans laquelle les musées n'existeraient pas. Cette conception, cette vision qui n'a cessé de s'affirmer depuis la Renaissance italienne en passant par le siècle des Lumières, s'épanouit aujourd'hui dans une dimension mondiale et universelle, favorisée par le développement sans précédent des communications. Et c'est dans cette croyance passionnée en la force de l'art que Seijiro Ujiie et moi-même, qui ne nous sommes pas connus, nous retrouvons. Cette croyance en l'art est l'honneur et la dignité des hommes, et mon prédécesseur en était incontestablement pétri. Pour lui, comme pour moi, l'art transcende les cultures nationales. Dans la contemplation d'un chef-d'œuvre, quelle que soit son origine, nous ne sommes plus japonais, français ou américains, mais simplement des hommes, unis dans un même ravissement. Tel est le miracle de l'art qui nous dépasse et nous appartient à tous à travers le temps et l'espace, tout en étant le propre d'aucun d'entre nous. Monsieur Ujiie a intitulé un de ses films « Si tu tends l'oreille ». Il m'est aisé de faire le parallèle entre ce titre et l'invitation que je n'ai jamais cessé de faire à mes conservateurs, au public et aujourd'hui encore à mes étudiants. Tendez l'œil, affûtez sans cesse votre regard et vous recevrez la révélation des multiples univers que nous offre l'art. Dans la contemplation d'un chef-d'œuvre à la pérennité sublime, il est donné à chacun d'entre nous de pouvoir renouer avec son humanité profonde. Le génie artistique nous grandit tous. Il est source de dépassement. Goethe le savait bien, lui qui écrivait à propos d'un masque antique dont la beauté le bouleversait. Le simple fait qu'une telle œuvre ait pu être créée et qu'elle soit encore de ce monde fait de moi deux fois l'homme que j'étais. Je suis, moi aussi, persuadé du pouvoir d'élévation de l'homme par l'art. Je crois, moi aussi, à sa puissance civilisatrice. C'est pourquoi je ressens, pour mon prédécesseur, une grande sympathie mêlée d'admiration. Je reconnais en lui une âme sœur dans notre grand projet ardemment partagé, la diffusion de l'art de par le monde. Tous deux, nous y avons consacré notre vie. Tous deux, nous y avons trouvé de grandes joies, chacun dans son domaine respectif et absolument complémentaire. Oserais-je le dire, lui et moi étions, par-delà les distances, par-delà les années, par-delà les continents, les fidèles d'un même culte. Ce culte, c'est pour moi un honneur, que dis-je, un bonheur, de pouvoir désormais le célébrer avec vous dans ce cénacle qui en est le temple. Merci, merci encore, mes chers confrères, d'avoir bien voulu faire de moi l'un des vôtres.